Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Voilà, bonjour, mais derrière les aux manettes, vous avez Stéphane et moi-même. Je vais vous parler aujourd'hui de Charlie Chaplin. Ça me paraît une bonne idée, parce que c'est vrai qu'au fond, je me suis rendu compte que je n'en avais pas encore parlé. Et pourquoi ? Parce que tout d'un coup, l'idée m'est venue, parce que je crois que c'était lundi soir ou dimanche soir, il y a eu le dictateur de Charlie Chaplin. Écoutez, on a beau le connaître, on peut le revoir et le re-revoir, et c'est toujours avec autant de plaisir. Oui, voilà. Moi, parmi tous les comiques, c'est pas Charlie Chaplin que je préfère, mais je reconnais quand même qu'il est assez exceptionnel, évidemment. Alors, moi, je vais me focaliser un petit peu plus sur les temps modernes. Donc, c'est un film qui est assez... On peut dire que c'est un film charnière dans la carrière de Charlie Chaplin. D'abord, c'est quand même... c'est le dernier film muet du réalisateur. Et on peut dire aussi que c'est un des derniers grands films muets de l'histoire du cinéma. Alors, avant les temps modernes, Chaplin a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre, notamment Le Kid, toujours dans le muet, La ruée vers l'or, Les Lumières de la ville, enfin des titres évidemment que vous connaissez. Et puis, il faut quand même reconnaître que la transformation du muet en sonore, ça a été quelque chose de pas toujours évident, qui n'a pas toujours marché, voilà. Et avec ce fameux film donc, qu'on a vu, qui date de 1940, il y avait Le Dictateur, il va aussi continuer avec il y a Les Feux de la Rampe, je crois que c'est en 1952, Un roi à New York en 1957, mais là je le trouve beaucoup moins inspiré. La Comtesse de Hong Kong, là je ne l'ai pas vu, c'est un film de 1967. Alors, les temps modernes, pourquoi je vous parle des temps modernes ? Parce que c'est aussi un film qui est important pour l'histoire du cinéma. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a une parfaite maîtrise du rythme burlesque. On a l'impression que, même encore aujourd'hui, quand on voit les temps modernes, comme on a vu le Dictateur d'ailleurs, la force comique n'a pas pris une ride. C'est toujours aussi drôle, quoi. Ça continue à faire rire de la même façon. Et donc, ça veut dire que ça a une force complètement universelle, parce que ça, comme c'est muet, justement, enfin, ou même s'il y a un peu de texte, mais très peu, ça fonctionne pour tout le monde, quoi, évidemment. Aussi, ce qu'il faut souligner dans l'intérêt de ce film, c'est l'utilisation originale et très habile du son, notamment par les bruitages, le chant, la musique, tout ça est inclus évidemment dans le film. Et le film de Les Temps Modernes, il est intéressant, pourquoi ? Aussi parce que le cinéma est parlant. Nous sommes en 1900, c'est un film qui date de 1932, dans ces eaux-là. Sachez quand même que le cinéma est sonore depuis 1927 avec le chanteur de jazz. Mais en même temps... j'ai envie de dire que Charlie Chaplin essaie de nous persuader qu'au fond, est-ce qu'on a besoin de la parole ? C'est pas sûr du tout. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, quelquefois, on se dit, est-ce qu'on a besoin de la parole ? C'est vrai souvent qu'on ferait mieux de se taire. Ça, c'est une petite parenthèse, pardonnez-moi. Mais donc, voilà. Et donc, il aurait pu. Mais c'est un film qui est à la fois muet et sonore. Et à la fin du film, quand il commence à chanter, mais il a oublié les paroles, enfin, il y a tout un quiproquo qui est très drôle parce qu'il écrit les paroles sur une manchette, mais au moment où il danse tellement avec beaucoup de grâce et beaucoup d'énergie, la manchette file, et donc il se retrouve sans les paroles de la chanson qu'il ne connaît pas. Et donc, il va chanter, mais en charabia, pour montrer qu'au fond, et on comprend tout. On comprend que c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme qui est dans un train, mais il ne peut pas lui parler parce que le train file, Voilà, et en réalité, quand on écoute les paroles, elles ne veulent strictement rien dire. Voilà, donc c'est le côté amusant. Il est en train évidemment de nous expliquer que le son, si c'est bien joué et bien fait, est-ce qu'on a besoin de paroles ? En revanche, le son, c'est différent. Le bruit, la musique, le chant, tout ça est très important. Mais la parole, quelquefois, elle est peut-être inutile. Donc je disais que c'était ça l'intérêt de ce film. Et puis, il faut quand même dire aussi que Les temps modernes, c'est quand même une critique très cinglante du travail à la chaîne, et notamment ses déclinaisons américaines et même soviétiques avec le stakhanovisme. Hein. Voilà, c'est aussi la dénonciation, puisque vous le savez, là, au début du film, il est là, il a tellement l'habitude de visser des boulons que tout d'un coup, quand il voit dans la rue passer une femme qui a des boutons sur son manteau qui ressemblent aux boulons, il se précipite pour aller tourner aussi les boutons de la veste qui, comme par hasard, se trouve placée juste à la place des tétons, quoi, voyez. Voilà, et donc tout ça, évidemment, est inénarrable. Bon. Alors, donc c'est un film qui parle de cette critique, donc du travail à la chaîne, mais aussi ça dénonce les injustices sociales et qui sont aggravées justement par la Grande Dépression qui a lieu aux États-Unis à cette époque. Donc, oui, on ne peut pas dire que le film soit, comment dire, une critique du progrès, certainement pas, de la modernité, puisque le film s'appelle en plus « Les temps modernes », c'est pas contre les temps modernes, c'est les temps modernes, mais ça veut dire que quand même, c'est quand même important que l'homme soit quand même libéré et qu'on le sorte d'un rythme un peu effréné du travail à la chaîne, où il peut même pas ni respirer, ni chanter, ni respirer, ni que faire, quoi, voyez. Donc il prône la liberté, bon, ben oui, voilà, la liberté. Donc, et en même temps, on s'aperçoit que il n'a pas eu un succès tout de suite. Hein. D'abord, on lui reproche de ne pas avoir fait un film parlant. 1932, il aurait pu l'être. Bon, voilà. On lui reproche de critiquer le stakhanovisme, le taylorisme, le fordisme, le Ford à la façon de Ford, etc. etc. On traite ce film de bolchevique. Et comme en plus de ça, vous le savez, qu'il y avait la grande chasse aux sorcières de l'époque, et comme on le suspecte d'avoir des sympathies communistes, oui, tout ça n'a pas. Il faisait même partie de la liste noire à Hollywood, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il s'est exilé en Suisse, et où il a d'ailleurs tourné ses deux derniers films dont je vous ai parlé. Et il faut attendre les années 70 pour que tout d'un coup on dise ah ben non, il est pas mal finalement, enfin etc. etc. Donc vous voyez, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas aussi simple que ça. Alors, si on se replace... Mais écoutez, on va faire une petite pause musicale. Donc, je vous propose... Je vous reparlerai évidemment du film à la suite. Mais je vous propose d'écouter tout de suite la dernière séquence du film Les Temps Modernes, où justement, bon, il est toujours à la recherche de travail. Là, il a été embauché dans un restaurant et on lui demande de chanter. Alors, évidemment, chanter, est-ce qu'il sait chanter? Donc, on se l'écoute tout de suite. Alors ce sont des cartons qui apparaissent, j'espère que tu sais chanter, dit le majordome. Alors il dit oui, évidemment, puis on le voit face au public, il sent les paroles, face à nous quoi. Toujours avec sa démarche et son petit chapeau, il n'a pas de chapeau là. Donc il essaie de se souvenir des paroles, et là on passe dans la grande salle où tout d'un coup le noir se fait, et vous avez les garçons de café qui chantent, qui arrivent en chantant dans une chorégraphie amusante. Et là, on retrouve Charlie Chaplin dans les coulisses. Et justement, il y a Paulette Goddard donc, qui est sa femme à la ville, mais qui est dans le film sa petite compagne, charmante, qui arrive comme une poupée, là, tout d'or habillée, et elle lui fait répéter la chanson. Donc, tout en entendant en off les sons du resto, là, on est dans la salle où il répète. Alors, il commence sa gestuelle, il avance, et au moment de parler, il ne se souvient jamais des paroles. J'oublie les paroles, dit-il. Alors, je vais les écrire sur ta manchette, dit Paulette Goddard. Alors, elle met sur sa manchette, elle note très précisément, nous avons un gros plan. Il essaie de se souvenir, mais il a du mal. Une jolie fille, un joyeux vieillard, flirter sur le boulevard, ça c'est les paroles, donc elle écrit sur sa manchette, on voit ça en gros plan. Et donc, c'est bon. Alors, il fait un essai, il recommence et hop, il chante. Il lit. Et donc, il fait les gestes, il montre les seins, les fesses, pour montrer qu'elle est jolie. Et alors, évidemment, elle est toute charmée de le voir faire. Et là, ça marche du feu de Dieu. Il y a le patron qui l'appelle. Vous entendez la musique, c'est le moment où il va aller dans la salle. Paulette se précipite pour le regarder, donc il arrive au milieu de la scène. Et il fait de grands effets de manches. Évidemment, la manchette se barre. Il s'en est pas rendu compte. Alors, il faut voir comment il danse, parce qu'il est absolument incroyable, de grâce, il est magnifique. Et Il s'aperçoit que la manchette a disparu. Alors il refait la même gestuelle, comme s'il dansait, mais en réalité il cherche la manchette. Donc c'est un plan fixe où il arrive, bon, voilà, alors donc il est en premier plan, il monte, il fait signe à Godard, à sa petite copine, qu'il a perdu la manchette. Alors elle dit, chante, ne t'occupe pas des paroles. Vas-y, chante, chante. Alors il est un peu gêné, et tout le monde commence à protester parce qu'il fait rien. Et donc ce que vous entendez, c'est bien la voix de Charlie Chaplin, c'est la première fois qu'on entendait sa voix. Je vous laisse écouter parce que ça vaut le coup.
La spinach o la bouchon, cigarette portobello, si rocky spaghetto, si le tout la qu'il est toi.
Et alors comme évidemment il fait une gestuelle, si on ne comprend pas les mots, on voit très bien ce qu'il veut raconter. Là il se nettoie ses ongles sur le... sur sa veste et il fait signe comme s'il voulait embobiner la dame. Donc là, il danse, on dirait du... C'est très rythmé. La taximite.
Le zionta sous la cita. Toula, 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 wa.
Voilà, il fait comme s'il rentrait dans la voiture. Donc vous le comprenez, ça ne veut strictement rien dire. Là, il est là dans la voiture en train de conduire, enfin, il fait semblant.
C'est mon tien si la mort, le son tien s'entrevore, le zonche comme soeur. J'ai la peau de sa fille à toi.
Voilà, il fait comme si tout d'un coup l'homme voulait toucher la jeune fille qui lui donne une tape sur la main.
J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop vite, je la casse à pilatoire.
Et là, il fait comme si on ferme le rideau. Il imite la jeune fille qui fait du charme. Voilà, et comme si l'affaire était dans le sac. Et donc le voilà qui revient évidemment et qui se fait embrasser cette fois-ci par Colette qui est tout à fait contente. Et il revient sous les applaudissements, il salue, tout le monde est debout. Voilà, donc vous avez entendu un morceau évidemment tout à fait intéressant. Alors, contexte historique du film, parce que c'est bien aussi de le resituer. Donc, je disais tout à l'heure les temps modernes 32, mais c'est 36. Donc, c'est pour vous dire que ça faisait presque 10 ans que le cinéma était sonore. C'est un film qui est donc sorti, comme vous le comprenez, en 1936, dans l'entre-deux-guerres. Au niveau économique, les États-Unis sont frappés par une crise économique et sociale. C'est le fameux krach boursier d'octobre 29, qui a entraîné d'ailleurs une crise bancaire, la faillite des banques, puis après une crise industrielle et enfin une crise sociale. Hein. Vous savez, des gens se suicidaient, enfin c'était une horreur. C'est la fameuse Grande Dépression et c'est la politique qu'on appelle la Nouvelle Donne qui va être lancée par Roosevelt dans les années 33 et qui a pour objectif évidemment de relancer l'activité économique avec des grands travaux, etc. etc. Bien. Et donc, au niveau politique, la paix qui règne enfin en Europe est quand même très fragilisée par la montée des totalitarismes. Parce qu'un peu partout, on voit notamment Hitler qui est porté au pouvoir en 33, justement, en janvier 33, et qui va transformer la République de Weimar en Troisième Reich. Hein. Et donc, ça commence avec sa politique d'agression, d'expansion, etc. Donc, vous voyez, on est quand même dans un contexte un petit peu tendu. Voilà. Alors, les temps modernes, Ben, c'est une comédie dramatique, on dira, en noir et blanc. Et le film a été réalisé, même la musique a été écrite par Charlie Chaplin. Et c'est un film, donc, comme je vous le disais, qui est un peu anachronique, puisqu'il aurait pu être sonore, il est muet sonore, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et parce qu'il y a des voix, des bruitages, et même le chant donc, qu'on vient d'entendre, donc ce que je vous le disais à l'instant, c'est la voix de Charlie Chaplin, ce qui est quand même très amusant. Et donc le film est sorti en 1936, le 5 février 1936, sous le titre Modern Times. Et ensuite, mais ça a été un succès populaire, parce que les gens ont beaucoup ri, mais ça n'a pas été très apprécié par la critique. Hein. Et en revanche, il faut quand même bien le reconnaître, que ce film est considéré aujourd'hui comme un film exceptionnel, un des plus grands films burlesques du monde du cinéma. Alors, Charlie Chaplin, eh bien, il est né en 89, dans un faubourg sombre de Londres. Ses parents sont deux artistes de music hall, donc il est tombé dans la soupe, si je puis dire. Puis se sont séparés, il avait à peine 3 ans. Et Madame Chaplin va se battre pour élever Charles et son demi-frère aîné, qui s'appelle Sidney. C'est un enfant illégitime, enfin bon, etc., etc. Et le problème, c'est que la mère de Charlie Chaplin a quand même une santé un peu défaillante, puisque même elle finira dans un hôpital psychiatrique. Et ils sont mais d'une grande pauvreté et la plupart du temps, ces deux garçons donc vivent dans des institutions pour jeunes indigents. Et à 10 ans, Charles débute sa carrière professionnelle. C'est son frère d'ailleurs qui était comédien qui va commencer, Sidney. Et Charles va commencer en faisant des claquettes comme des enfants danseurs, vous savez, à droite, à gauche. Longtemps, il va tenir le rôle du petit groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes, voilà, petit à petit. Et puis, comme son frère avait réussi à se faire engager comme comédien, c'était une troupe qui s'appelait le Kaiser's Court Circus. Eh bien, il va rentrer là aussi, puis il va commencer à faire des imitations, et tout le monde s'amuse beaucoup, voilà. Et en réalité, son vrai départ va commencer lorsqu'il va intégrer la troupe de Fred Carno, K-A-R-N-O. Et c'était le plus grand impresario britannique de spectacle, mais de cabaret. Et notamment, ce qu'il aimait, Carno, c'est vrai que tous les films qu'il produisait étaient d'une violence incroyable. C'était, si vous voulez, le début un peu des plastiques. C'est-à-dire, ce sont des films courts où c'est assez méchant quand même, c'est assez violent. Les gens, soit ils reçoivent c'est ce qu'on appelle le burlesque plastique, mais soit ils ont un coup de pied aux fesses, soit tout d'un coup ils passent, la porte se referme sur leurs fesses, ils reçoivent un coup de poing, ils tombent. Enfin bon, voilà, ça ne manque pas de vigueur, on va dire, voilà. Et donc, il va commencer donc à faire même quelques petits films, des petits films très courts, et il va créer petit à petit le costume. D'ailleurs, il y avait justement à la suite du Dictateur sur Arte, il y avait un court-métrage, un documentaire qui expliquait exactement comment il était arrivé progressivement à trouver le costume de Charlot. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais tout d'un coup, il s'est dit, tiens, dans la cabine de costume, il a commencé à trouver un pantalon vraiment très large. Alors, il s'est dit, bon, si je mets un pantalon très large, je vais peut-être mettre une veste, au contraire, extrêmement cintrée, peut-être un chapeau, des grandes godasses, une canne. Vous voyez, ça s'est fait progressivement. Et puis, évidemment, c'est devenu le fameux Charlot qu'on a connu. Et d'ailleurs, même à la fin, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont imité Charlot. Il y avait même une comédienne, enfin, qui avait exactement la stature. Et dès que Charlie Chaplin, Charlot, donc le vrai, si je puis dire, faisait un film, vous aviez cette femme, donc déguisée en Charlot, qui refaisait la même histoire complètement, mais bon, avec évidemment beaucoup moins de talent. Parce que c'est ça, le talent, vous savez, cet état de grâce, il est malheureusement, quand on parle d'égalité, non, il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont de la grâce, et comme Charlie Chaplin, il s'appelait initialement Charles Spencer Chaplin. Voilà, et en revanche, tout le monde ne l'a pas, évidemment. Alors, il va passer d'une compagnie à une autre, et puis avec un salaire qui commence à grimper, c'est-à-dire assez vite, hein, ça s'est fait assez rapidement. Et jusqu'au moment où on vient le chercher pour parce qu'on voit que le public fonctionne, il plaît beaucoup au public, donc il va même finir par avoir ses propres studios dans les années 1918. Et il est même cofondateur avec Douglas Fairbanks, Murray Pickford, Griffiths, il va participer à l'aventure des artistes associés. C'est une maison, les United Artists, qui est une distribution indépendante et avec, alors là, c'est là qu'il va commencer tous ses chefs-d'œuvre. Hein. Justement, je vous en ai parlé, The Kid, La Ruée vers l'or. Et donc, ça veut dire que Charlie Chaplin va apporter une nouvelle dimension à la comédie. Pas seulement, évidemment, son talent, mais son jeu d'acteur, mais aussi sa créativité burlesque, et notamment aussi dans l'étude des caractères, et puis cette satire sociale qui, évidemment, va faire son succès. Voilà, c'est pas ce qu'on pouvait dire, mais et quand il va se lancer donc progressivement dans le sonore, donc dans les temps modernes, on ne l'est pas encore, mais avec Le Dictateur, c'est en 1940. Et donc là, il a donc travaillé progressivement et en 1940, il peut prouver qu'il peut manier le son et la parole avec autant de perfection que ce qu'il faisait avant. Voilà. Et donc, évidemment, Le Dictateur, vous le savez, c'est quand même assez incroyable parce que, bon, certes, c'est tourné en 40, mais enfin, c'est très osé parce qu'il nous refait un Hitler complètement givré, notamment avec les discours qu'avait Hitler. Mais c'est d'une drôlerie, vous ne pouvez pas vous imaginer, quoi. Ça, je vous le recommande. Hein. Ça, il faut absolument avoir sur sa vidéothèque personnelle les temps modernes et Le Dictateur. Hein. Ça, c'est, on ne peut pas passer à côté, quoi. Voilà. Et ensuite, Chaplin, donc je vous l'ai dit, pour des raisons politiques, va être obligé de quitter les États-Unis. Il va faire des films, mais je trouve que... Les films en Europe sont... Moi, j'avais vu Un roi à New York. Bon, je suis moins emballé, évidemment. Et puis donc, il va mourir en 1977. Vous savez qu'il aura épousé Oona, qui était... je sais plus comment elle s'appelait. Oona, pardon, je me souviens plus du nom. Pourtant, c'était la fille d'un dramaturge anglais extrêmement connu. Ils vont avoir toute une série de mômes, et dont je crois que je vous en ai parlé sur ces antennes... notamment Geraldine Chaplin, qui a été la femme de Carlos Saura. Voilà. Et donc, tous des enfants tout à fait formidables. Alors, quand je vous disais que le son est important, même si la parole n'y est pas, j'ai envie de dire que presque la musique et le son sont des éléments fondamentaux du rythme chaplinien. Parce que la musique est donc composée par lui-même. Donc il a été violoniste, enfin c'est pas un excellent violoniste, mais enfin il a toujours travaillé, il a commencé par le musical, donc la musique est omniprésente, et il s'aide évidemment de chefs d'orchestre de renom, comme David Raskin, et il mettait des, parce que c'est pas un musicien au sens propre, mais bon, il a le sens du rythme et de la musique... Voilà, pardon, c'est moi qui ai lancé le par inadvertance le son, c'est pas grave, ça fait juste une petite voilà. Et donc la synchronisation entre l'action et la musique est d'une très très grande précision. Souvent la musique d'ailleurs annonce le gag ou une transformation de l'action. Elle donne, j'ai envie de dire, la couleur à chaque plan. Notamment la marche de Charlot. Il y a un côté cadencé comme ça dans cette marche qui est très caractéristique. Et puis, ça s'accompagne, la musique, c'est souvent le même thème, mais qui peut être aussi bien calme et mélancolique qu'au contraire très frénétique. Voilà, et donc, et puis alors, à ce moment-là, on rajoute quelques instruments comme du tambour ou des cuivres, notamment les manifestations. Il y a même quelquefois un hymne qui rentre en crescendo. L'arrivée des policiers est marquée par des roulements de tambour, ou alors c'est des rythmes très saccadés qui marquent parce qu'il y a des coups de matraque, alors bloum bloum, vous avez les percussions qui sont synchrones avec les coups de matraque. Bon, évidemment, donc si vous voulez, la musique, elle n'est pas du tout redondante, elle est au contraire, elle porte l'image d'une façon absolument incroyable. Puis quelquefois même, il va jusqu'à des dissonances, notamment pour si une manifestation ou une action a eu lieu puis qu'elle se termine par un échec, alors tout d'un coup, ça devient complètement dissonant, voilà. Donc c'est évidemment très très drôle. Et on va peut-être essayer d'en voir un petit passage. Alors, je propose, je vais vous faire entendre. Évidemment, je commenterai parce que c'est quand même très visuel. Donc là, malheureusement, à la radio, il n'y a pas d'image. Donc, je vous commenterai plus ou moins ce que l'on voit sur la première image. Voilà, donc ça, c'est le début du film avec le générique. Et qui apparaît sur une énorme horloge où le temps tourne. Parce qu'évidemment, comme je vous disais, qu'il va faire une critique très sévère de ce temps précipité dans lequel les ouvriers sont obligés de travailler, le temps a une importance considérable. Et donc ça commence, il est 6h-1, et donc on est toujours sur ce grand cadran énorme qui prend la totalité du cadre et déroule le générique. Et donc la musique, vous le voyez, elle a des accents mélancoliques, parce que c'est vrai qu'effectivement le film, on y rit beaucoup, mais c'est quand même dramatique. Alors les temps modernes, un petit texte, un récit sur l'industrie, l'initiative individuelle et la croisade de l'humanité à la recherche du bonheur. Fondu au noir. Et là tout d'un coup vous avez un plan en plongée de moutons qui passent comme ça. Et fondu enchaîné, et vous avez la même chose quasiment, mais ce ne sont pas des moutons, ce sont des hommes qui vont à l'usine. Donc évidemment, la comparaison est féroce et compréhensible. Là, vous êtes dans l'arrivée dans l'usine, donc là aussi, gros plan. Vous avez les machines qui prennent les trois quarts de l'image, et vous avez les ouvriers, petits personnages minuscules qui rentrent dans l'usine. Et là, vous avez un ouvrier qui met en marche l'usine. Et là, vous avez un portrait, c'est le président. Pendant que les ouvriers rentrent, lui, le patron, il est là en train de faire un puzzle. Et il en a ras-le-bol, il regarde le journal, il regarde les bandes dessinées. Il est très fatigué par avance. Et là, la secrétaire va lui apporter un verre d'eau. Avec un cachet, parce que vous voyez, il est très débordé de travail, donc il a besoin de prendre un cachet. Et là, tout d'un coup, il met en image, c'est-à-dire que dans son bureau, il y a comme un grand téléviseur, vous voyez comme on est quand même très à l'avance, et il regarde, il a des prises de vue de l'usine pour voir si les ouvriers travaillent bien. Et donc là, on est à nouveau à l'intérieur de l'usine. Ça sonne, donc l'homme en question... Section 5, accéléré. Voilà, c'est-à-dire qu'il prend les commandes et donc on demande à l'ouvrier d'accélérer la cadence. Donc en effet, vous entendez le bruit. Et en effet, tous les ouvriers sont là à s'acharner. Et là, on arrive sur un truc à la chaîne. Attention, contre-maître, vérifiez la chaîne 5. Et là, c'est là qu'on découvre Charlie Chaplin, qui est en train de visser les boulons, comme je vous le disais. Et il veut se gratter, et parce qu'il se gratte, il perd du temps, il se fait engueuler par le voisin. Et donc tout ça est un plan séquence. Il y a le chef de service qui vient lui dire « Attention, il est en retard, alors il lui fait signe d'aller plus vite, sinon il lui fait signe qu'il va le virer. » Alors le fait que Charlie Chaplin lève le bras, ne serait-ce qu'une gestuelle très courte, ça l'oblige évidemment et il perd encore les boulons. Là on a un gros plan et tout d'un coup il y a une mouche qui vient se coller sur son qui vient tourner autour de lui. Alors il se bat avec la mouche, il veut la pourchasser, et comme il la pourchasse... Et alors à ce moment-là arrive un copain ouvrier qui, pour chasser la mouche, évidemment, donne un grand coup sur le crâne avec un journal, mais enfin, voilà. Et donc il continue, et tout d'un coup, là, drame, il se trouve que il voulait serrer la vis et son instrument s'est resté coincé. Il explique, mais tout est arrêté. Voilà. Et donc on engueule évidemment l'autre, alors il commence à se battre avec son voisin. Mais seulement ils n'ont même pas le temps de s'expliquer. Voilà, parce que évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Section 5, more speed, 4-7. Alors ça c'est le patron qui tout d'un coup intervient encore, section 5, accéléré encore. Là, vous entendez les bruits particuliers et la vitesse qui s'accélère. Et là on revoit Charlie Chaplin qui est en train évidemment de serrer un maximum. Faut quand même reconnaître qu'il faut le faire. Et donc comme c'est sa pause, il part, on prend le relais, mais alors il continue tout en marchant, il a toujours la même gestuelle, il est complètement intoxiqué. Voilà, là il fiche comme quoi il va faire sa pause. Et là il rentre dans une salle de bain, il fume. Vous voyez, il y a un peu dans la musique quelque chose d'un peu plus calme. Voilà.
Hey
Voilà, et là, à l'instant, on va s'arrêter là, mais là, évidemment, alors qu'il croit être calme, vous avez entendu la musique qui est très cool, eh bien, il est obligé de se réveiller parce que le patron a même son image qui apparaît sur une espèce de vidéo avant l'heure et qui, tout d'un coup, lui dit « Non, mais dis donc, tu vas pas rester comme ça à fumer, tu n'as pas le droit de fumer, etc. etc. » Bon, voilà, donc, vous l'avez compris, c'est un rythme endiablé, c'est sympa comme tout, les temps modernes, comme le dictateur, enfin, comme tous les films de Charlot, je crois qu'il faut les regarder encore. Tous ces gens-là ont tout dit du cinéma. Bien, ben en tout cas, merci Stéphane pour cette petite demi-heure passée ensemble autour de Charlie Chaplin. Eh bien, on se retrouve, je ne sais pas d'ailleurs si on se retrouve mercredi prochain. Si, je crois que c'est nous, je ne sais pas, j'en sais rien. Enfin, écoutez, on verra bien. De toute façon, à bientôt.